put a spell on you.
Votre attention à tous. Aussitôt que le sas sera verrouillé, silence. Jacques et Yula, si quelque chose cloche, prévenez-moi par télépathie.
I want you to get up right now and go to the window, open it and stick your head out and yell, I'm as mad as hell and I'm not gonna take this anymore.
Comme ça, Money, tu penses que ton stuff c'est la grosse affaire?
Laisse-moi te dire une chose, qu'avec ce stuff-là, les petits dealers sont mieux de prendre leur trou.
Et c'est inconscient-là qui est le plus dangereux.
Nice shooting, sir. What's your name?
Murphy.
Je suis un fort! Je suis inordure! Je suis pourri! Je suis lépreux! Ne partez pas!
I put a spell on you! Because you're mad!
Bonjour, bonjour, bonjour. Excuse-moi, je viens tout juste de prendre ton message sur le mur de Satya Mandikar concernant l'émission, puis je la trouve vraiment drôle. Fait que j'étais en train de me bidonner dans le fond.
Oh.
Bonjour tout le monde, bonjour chers auditeurs, bonjour chers non-auditeurs, bonjour David.
Bonjour.
Bonjour Francis, dans ta présence spectrale au-delà de nous, dans les grandes
Europes. Au-delà des continents.
Continenta! Aujourd'hui, une émission pas mal spectaculaire. En fait, on parle... Ah, oh shit, man, ça va être vraiment quelque chose.
Écoute, les signes étaient là pour qu'on fasse cette émission-là. Moi, qui était comme toujours dans un moment d'inquiétude avant l'émission, on a eu un signe de Dieu.
C'est ça, quand le destin se manifeste de cette manière-là, on se trompe pas. C'est comme le gros doigt de Monty Python qui descend du ciel puis qui poke dans le pèteux. Vous êtes sur les ondes de choc.ca, vous écoutez le 7e Antiquaire, David Fortin et son magnifique t-shirt de Werner Herzog. Et moi... Avec, qu'est-ce que je porte en dessous? Ah, je porte rien.
Ouh.
Non, c'est bien faux, je porte mon t-shirt du gouvernement que ma blonde m'a acheté. Government, if you think the problems we create are bad, just wait until you see our solutions.
Ouh.
Oui. Parce que cette émission-là, aujourd'hui, elle est alimentée
elle
d'un...
Elle est politique.
Elle est politique et elle brûle de mille feux, de mille soleils, de Général Zod... et de, je sais pas qui pogne en feu récemment, mais elle brûle de lui avec. Aujourd'hui, on fait une émission sur quelque chose que je pense que les deux, on a découvert essentiellement de la même manière. Et quand je dis découvrir de la même manière, c'est qu'on l'a découvert en faisant « What the fuck is that? » C'est essentiellement ça qui nous a amené à étudier, dans la dernière semaine, les films du réalisateur qu'on va aborder aujourd'hui, parce que ce WTF-là est beaucoup trop immense pour passer sous le silence.
Oui, parce qu'en fait, Dusan Makhachev, je voulais être sûr de pas... Jean-Michel qui court dans les studios. Je voulais être sûr de pas le manquer comme il faut. Donc, Dusan Makhachev... Ah, ça y est! Dusan Makhachev. Cinéaste yougoslave. Très connu, j'imagine, de ceux qui s'intéressent beaucoup au cinéma de la Black Yugoslav Wave. Et vous devez être nombreux.
Oui,
mais
c'est
ça. C'est un nom que je connaissais, moi, en fait, de réputation depuis quand même un bout. Les films, les titres, Sweet Movie et Mysteries of the Organism, je les avais vus passer, j'avais vu des images, je savais que ça avait l'air d'être une zone intéressante quand même, et particulièrement « what the fuck », comme tu disais. Et Criterion, qui avait depuis quelques années mis « Sweet Movie » et « Mysteries » en DVD, j'attendais toujours comme le moment, mais je me disais tout le temps « un moment donné, je vais me lancer là-dedans », j'étais pas sûr, ta-ta-ta, puis finalement, bon, tu colles l'émission, on se lance là-dedans, et je m'attendais pas à ça. Je savais que « Sweet Movie », c'était une zone, ça a été encore plus « what the fuck » que je pensais, et « Mysteries », je savais que ça allait être kaléidoscopique, et ça l'était encore plus, mais surtout, je savais pas du tout le WR, il était là pourquoi. Et quand j'ai vu que c'était relié à William Reich.
Ben oui.
J'ai fait « Oh my God, c'est doublement pour le 7e antiquaire » et faisant le lien tout de suite avec dans le temps que j'étais auditeur et que je tripais sur vos émissions tout le temps et que j'avais découvert votre émission sur le film perdu sur William Reich.
Oui, Hideous Kinky fait un lien. Et le prophète, que malheureusement, bon, c'est ça, Francis est en Europe, ça fait que j'ai pas pu aller chercher la VHS pour pouvoir le réécouter parce qu'on a fait une émission où on parlait de ce film-là extrêmement évasif qui était la biographie du fameux psychothérapeute.
Mais non, personne ne savait qu'il y avait un autre truc relié à William Reich et qu'on on s'y serait pas attendu, mais c'est réellement quelque chose.
Oui, définitivement. C'est vrai qu'il y a quelque chose. J'ai bien aimé ton espèce de mouvement de bras de « c'est quelque chose ».
Oui, on y reviendra.
Parce que ça va être ça aujourd'hui. Bienvenue en ondes, on va parler de quelque chose. C'est quelque chose. Moi, Sweet Movie, c'est essentiellement ça qui est arrivé. En fait, c'est cette bon, en fait, même... Ma technique par rapport à l'antiquaire, c'est de dire, on va aller essayer ça, parce que, bon, il y a trop d'ingrédients dedans pour pas que ça soit étrange. Et j'écoute la première demi-heure, puis je me dis, y a-t-il un antiquaire à faire avec ça? Je pense qu'il y a comme 4 minutes après le début du film que j'étais comme, oui, il y a un antiquaire à faire avec ça.
Oui, c'est une zone en soi. Puis en plus que ce soit une coproduction québécoise, dans laquelle un des personnages, en fait, la personnage principale qui est on pourrait dire que c'est la personnage principale qui est Carole Lard.
Oui, c'est la...
Donc, ça a piqué notre curiosité, d'autant plus qu'aujourd'hui, à 4 heures, on est un peu tombé dessus. Elle était à la Cinémathèque pour faire une entrevue, j'imagine. Et on s'est un peu laissé aller à lui, à l'accoster pour lui demander parce que là, c'était juste trop un addon parfait et c'était un signe des cieux, comme quoi on faisait l'émission qu'il fallait. Et en même temps, on s'est juste dit, tiens, allons lui dire que c'est un drôle d'addon et que si jamais, peut-être, ça l'intéresse d'avoir deux, trois trucs à dire, peut-être, sur le film. Et là, on a vu tout de suite la retenue.
Elle a décliné poliment, de façon extrêmement, extrêmement gentille. Ben, c'était super
quand
correct.
On voit le film, on comprend un peu que ça a dû être un tournage difficile, et je pense qu'elle l'a confirmé dans ses propos.
Mais, qu'on ne répétera pas.
C'est ça. Donc, de toute façon, en temps voulu, on reviendra sur le film.
Exactement, mais c'est ça, c'est tout pour vous informer.
C'est crunchy.
C'est pour vous informer de cette espèce d'addon divin et cosmique duquel nous avons... En fait, on a été roulé au dé aujourd'hui, essentiellement.
Oui, parce qu'on a même eu la chance quand même de parler un bout de temps avec Carole Lard et d'apprendre quand même des trucs qu'on ne vous révélera pas.
Non, pas du tout, mais... parce qu'on veut être très poli, on veut être très gentil. Elle nous
très
a demandé d'être...
Il y avait des choses que vous voulez garder pour elle.
C'est
mais on va quand même vous parler beaucoup des deux films dont on vient de nommer, de ce qu'on en a retenu et de ce qu'on a pu apprendre en lisant sur eux. Fait que...
Bon Dieu qu'on en a retenu, c'est tout ce qu'on a à vous dire pour le moment. Mais on va commencer essentiellement en parlant du sang de Macavier. Français, c'est toujours là pour faire les accents, moi je suis pas capable, mais je sais que c'est doux le sang.
Macavichev.
Macavichev, M-A-K-A-V-E-J-E.
Souvent, quand je vais me référer à lui durant l'émission, je vais dire « Doussane ».
Moi aussi, c'est ça. Tout en douceur, on va dire « Doussane ». Mais je l'ai appelé essentiellement pour que vous puissiez aller retrouver ce monsieur-là et vous garrocher le plus grand nombre de ses films derrière la cravate, notamment « Coca-Cola Kid » avec Eric Roberts.
Oui, avec Eric Roberts dans les années 80. Qui a l'air d'être une suite logique de ses préoccupations anti-capitalistes.
Peut-être plus soft, essentiellement.
Oui, probablement.
On parle de l'histoire d'un exécutant publicitaire qui doit faire un voyage en Australie pour comprendre pourquoi est-ce que... Non, en fait, oui, il est en Australie. Pour découvrir pourquoi est-ce qu'il y a une communauté complète qui refuse de boire du coke. Fait que ça, déjà en soi-même, vous avez comme deux phrases, on pourrait faire une émission là-dessus.
Ouais.
Mais on va parler de Doussane, qui, tout au long de sa carrière, a été, ben, essentiellement, c'est l'auteur de cinéma yougoslave le plus célébré.
Je sais pas si c'est sûr que Emir Kusturica est quand même très connu.
Ouais, c'est vrai.
Mais.
Ouais. Excuse-moi, pas pour moi. Moi, j'ai vu la vache que mangeait la Volkswagen, puis j'ai fait « that's enough ». Je suis correct avec ça.
C'est sûr qu'Emir Kusturica, c'est un cinéma beaucoup plus gitan, mais
moi.
Doussane, en fait, Doussane. vient un peu d'un mouvement qui est apparu en Yougoslavie dans les années 60, début 70, la Black Yugoslav Wave.
Black Wave Yugoslav, que moi
c'est
je trouve
la nouvelle vague noire Yougoslav qui regroupe quelques réalisateurs dont...
Prononce-les, ah ouais.
C'est ça, je me lancerai pas dans les... Aleksandar Petrovic.
Oui, le Chacha.
Qui a fait I Even Met Happy Gypsies, qui est quand même un film qui est justement un petit peu plus ou moins... proche, là, justement, peut-être de ce que Kusturica pouvait faire, mais qui fait partie de cette vague noire.
Moi, je
dissocie le Kusturica. C'était juste pour faire un lien avec quoi le nom de cinéma yougoslave qui pop, qui est populaire, c'est lui. Là. Mais sinon, il y a eu cette vague-là. Il y a eu quelques réalisateurs, donc on ne s'est pas lancé dans tout parce qu'on ne les connaît pas, puis les films n'ont pas l'air évidents à trouver.
Mais moi, je veux les nommer pour les auditeurs, par exemple, s'ils veulent découvrir plus. Absolument. Fait aller voir Jika Pavlovich. Ou Zilimir Zilnik, Mika Antic.
J'espère que vous prenez des notes.
Lordan Zafranovich. Non, mais c'est le fun. Le podcast fait en sorte que tu peux peser pause puis l'écrire sur ton cahier Canada. Mika, là ici, le C, accent aigu. Moi, je me dis que c'est un ch, mais on verra. Mika Popovic et Marko Babak. C'est essentiellement qu'est-ce qui compose cette, ce groupe-là qu'on appelle le Yugoslav Black Wave. Qui, bon, déjà, moi, j'avais l'impression qu'il y avait Henry Rollins dans le groupe. Fait que j'étais super content. Mais ce que j'ai découvert était beaucoup plus dépravé et effrayant que les vidéoclips de M. Rollins n'ont pu nous offrir.
Ouais. En fait,
c'était peurant de dire ça.
Ben oui, c'est ça. Leur symbole, d'ailleurs, c'est trois barres avec une barre un peu plus par en bas.
Ouais. Qui symbolise le pénis qu'on a fait un plâtre avec. Puis on a décidé
de faire le symbole de Black Flag sans que ça paraisse.
On l'a compris.
Okay.
On est des auditeurs informés. On connaît notre punk rock.
Mais c'est ça, ces cinéastes-là, en fait, ce qu'ils faisaient, bon, faut comprendre aussi, c'est très relié à la politique aussi qu'il y avait, bon, en Yougoslavie à cette époque-là. Donc, c'est sûr que c'est pas évident d'approche. Ça l'a pas été pour moi, moi qui
connais
pas tant que ça non plus, là, toute l'histoire politique de la Yougoslavie. Mais c'est sûr que c'est un pays qui a vécu déjà, il y a eu trois moments de Yougoslavie. La Yougoslavie des années, je pense, 1918, je sais plus quoi.
Pas pire.
Fin 40, je crois, mi-40, où la Yougoslavie communiste est embarquée.
Les années 40.
Fin de la guerre.
Oui, ben oui.
Puis, c'est ça, donc, sous un régime qui fait que là, quand on arrive dans les années... Bon, jusque, je pense, si je me trompe pas...
Mi-50, probablement, si je me fie à la biographie d'Oussan. 60 même, en fait, parce qu'il a été exilé par le régime communiste à cause de qu'est-ce
que... Oui, non, c'est ça, parce que, non, si je me trompe pas, ça a été quand même assez longtemps communiste.
Mais on n'est pas une émission d'histoire.
Mais c'est ça, ce qui arrive, c'est que dans les années fin 60, début 70, bon, on est sous le régime de Tito. Et,
c'est là qu'il y a une gosse, là.
Oui, puis c'est ça, donc il y a vraiment... Il y a un reste de Staline qui est encore là. Il y a des restes. Puis ce cinéma-là fait un genre de retour sur... un certain communisme, un certain socialisme, puis autant qu'ils pouvaient critiquer le régime, ce mouvement de la Yugoslav Black Wave-là, autant que leur but, c'était aussi d'essayer de...
D'en sortir.
De montrer une image d'un nouveau socialisme possible, dans lequel on pourrait faire ressurgir un peu plus le côté humaniste, le côté humain, justement. Donc, en soulignant peut-être plus une certaine libération sexuelle,
si on veut.
En tout cas, Dusan focus beaucoup là-dessus.
Notamment par multiples itérations de cette phrase-là dans ses films. Parce que la révolution, qu'elle soit capitaliste ou communiste, a toujours évincé a toujours ignoré la dimension sexuelle.
Oui. Parce que pour lui, il y a beaucoup de parallèles dans ses films entre la répression politique et la répression sexuelle. Donc, pour lui, une libération sexuelle amenait logiquement un parti socialiste beaucoup plus sain. Et d'ailleurs, dans ses films, ses personnages principaux vont souvent comme clamer un peu
à part des espèces de grands soliloques où essentiellement ça se termine ou ça se synthétise par « Camarades, faites l'amour en joie et non en peur ».
Exactement, oui.
C'est ça, tu sais. Oui. Bon, on sait que Dusan a étudié dans les années 50 la psychologie avant de devenir cinéaste. Donc, il a été très rapidement, très jeune, exposé à ces idées-là de Reich que tu disais, qui, si vous voulez retourner à notre émission, fait essentiellement une synthèse sur l'idée de Reich.
Probablement un des premiers Serbes à avoir lu Reich parce qu'il pouvait lire l'anglais, justement.
Ah, c'est intéressant, ça.
Ouais.
C'est ça, tu sais. On sait de sa biographie qu'essentiellement, il a découvert Reich, Freud, la psychologie gestaltienne, les surréalistes français et le cinéma muet soviétique en même temps.
Oui.
Fait que là, si vous pouvez vous imaginer essentiellement le melting pot que ça fait chez quelqu'un.
C'est un peu son cinéma.
Exactement.
Parce que clairement, son cinéma est influencé de Godard beaucoup pour justement l'idée du montage, de l'association d'images, de mêler un peu des idées politiques à ça. Mais beaucoup du cinéma soviétique, particulièrement l'idée du montage que Eisenstein ou Vertov pouvaient avoir. Puis ce qu'il fait, c'est qu'il se le réapproprie il en fait, disons, d'une manière un peu anarchique, quelque chose qui tient plus des surréalistes avec le collage d'images. Donc,
il travaillait sur l'interprétation. C'est l'idée que Eisenstein, dans son idée du montage, le montage idée, qui a un nom plus théorique pour ça, mais il m'échappe à ce moment-ci parce que j'ai trop de fun à faire l'émission. C'est essentiellement que si tu mets un bébé avec une joue rouge qui braille, puis après ça, tu coupes à un monsieur avec une grosse moustache qui a de la fâchée, ton esprit va remplir le blanc et dire « Le monsieur a donné une claque au bébé ». C'est ce que Dusan a exploité dans son cinéma de rapiécage, c'est de faire
l'association d'idées, oui.
Exactement, de dire...
Comme dans son film... son film « Innocence sans protection », un de ses premiers films, où il mettait des extraits du premier film serbe parlant, puis il mixait ça avec des images d'actualité, plus des images de 25 ans plus tard, avec les mêmes comédiens, des choses comme ça.
Ben, c'est ça, il a engagé pour Innocence Unprotected, le film de 1967, le premier réalisateur de cinéma yougoslave, un individu qui s'appelle Maka Vejev. Non, c'est pas lui, ça c'est lui.
Ça, c'est l'autre.
C'est ça. Hey, j'ai de la misère. Je me rappelle plus c'est quoi le nom de ce réalisateur-là, mais de toute façon, je serais pas capable de le prononcer. Mais c'est ça, il y a comme un travail aussi. Bon, on y reviendra plus tard quand on va parler plus précisément des œuvres, mais il travaille, comme tu dis, avec le passé, avec le présent et le chevauchement de ces deux moments-là.
Oui, parce qu'il va beaucoup jouer aussi avec les idées qu'il pouvait avoir à une époque par rapport au communisme, au socialisme, et les mixer un peu avec les idées qu'il y a maintenant pendant qu'il fait le film sur le même régime, puis d'essayer souvent, en tout cas dans ses films, de mixer ça avec des cultures extérieures. Donc, il va beaucoup, comme dans Mysteries of the Organism, même dans Sweet Movie, il va aussi beaucoup mélanger ça avec des idées du côté ouest, en fait, là, de la société occidentale, que ce soit qu'on voit en parallèle une personne qui est clairement un acteur qui personnifie le socialisme. Ouais. Puis ensuite, d'un autre côté, on va voir la personne... c'est souvent des femmes, en fait, ces personnages principaux. Puis une femme qui va évoluer avec cette idéologie socialiste-là, puis une femme qui va évoluer dans une idéologie beaucoup plus capitaliste américaine. Et on voit le résultat un peu de chacun de ces deux parcours qui sont suivis un peu en parallèle.
C'est bien dit. C'est vrai que c'est comme des récits d'initiation. Ouais. Mais bon, dans Sweet Movie, il y a un personnage qui s'appelle Monsieur Capital. Ça fait que c'est assez difficile de
nier. Oui,
c'est
du gros symbolisme.
Ouais. Mais une des choses que j'aime beaucoup, en fait, c'est cette idée-là que Dusan a toujours admis que le narratif, en fait, le format qu'on utilise pour raconter une histoire n'est pas quelque chose qui libère, c'est une prison.
Oui.
Et cette citation-là, je la trouve très importante pour comprendre son œuvre, parce que son œuvre n'est pas comprise ni approuvée par tout le monde. C'est cette idée-là que la formule de raconter une histoire est quelque chose qui est imposé.
Mm-hmm.
Elle est proche d'un mensonge, et que lui, son but ultime, si on peut dire, par rapport à faire du cinéma, c'est de briser ce mensonge, c'est de défaire les murs.
C'est un peu en parallèle avec ce que William Reich, justement... Exactement. C'est toujours très relié avec les théories de William Reich, parce que justement, il voulait un peu comme lui libérer... C'est un peu le même travail. Les deux veulent libérer un peu les gens de leur masque, justement, de leur armure, de ce qui les empêche, justement, d'être complètement libres.
La répression idéologique.
Chacun utilise les moyens différents, mais chacun a cette espèce de but ultime-là. Donc, c'est sûr que pour Dusan, de se lancer vers cette direction-là, il faut absolument faire une révolution à tous les niveaux, donc aussi au niveau du langage cinématographique, d'essayer de briser les moules et de faire complètement autre chose. Donc, c'est un peu vers ça. Ces films sont un peu des collages, si on veut, où il mélange la fiction, le documentaire. Il va tourner des moments de fiction, mais il va mélanger ça en parallèle avec des extraits de films d'archives.
Oui. Des moments d'archives extrêmement perturbants, soit
des films de fiction qui datent d'une autre époque dans lequel on va personnifier Staline. Dans d'autres cas, ça va être des images documentaires de découverte de qui se passe à Katyn, en Pologne. Dans d'autres cas, ça va être des images d'études psychologiques.
De gymnastique, de
toutes sortes. Et puis, en parallèle à ça, son film de fiction qui crée un peu, puis il essaie de mettre tout ça un peu en avancée parallèle. Donc, puis des fois, il va mettre des kaléidoscopes, comme un peu de la façon que s'ouvre son film WR, qui est essentiellement une image qui vient de Woodstock 69, je crois. Puis il a juste mis ça en kaléidoscope en faisant un discours socialiste par-dessus. Donc, c'est vraiment toujours ce mélange de discours-là. Puis il va utiliser des personnes, aussi des personnalités fortes d'un film à l'autre. Bon,
c'est vrai.
Dans WR, il va aller choisir toutes les gens les plus libérés possibles. Donc, il va aller chercher les superstars d'Andy Warhol, Jackie Curtis, si je ne me trompe pas. J'espère que je ne me trompe pas.
Ben non, tu ne trompes pas.
Je m'étais lancé sans mes notes. Mais sinon, Jim Buckley
dans Dance with
the
Movie
War. Le co-fondateur de Screw Magazine,
ah oui,
la revue porno.
Oui.
Et le bon producteur-réalisateur de Debbie Does Dallas 1 et 2.
T'es-tu sérieux?
Oui.
Ah, je savais qu'il y avait Screw dedans, puis ça, c'était comme vraiment un moment intéressant. Mais...
Non, c'est ça. Puis, donc, des personnes très. Tu sais, puis cette espèce de. Je pense que c'est quelqu'un aussi qui a été assez. Influencé par ce mouvement de libération qu'il y avait aussi dans l'Ouest, là, en Amérique, qui se répercutait aussi dans un certain cinéma de cette époque-là.
C'est ça, ça doit être un choc pour quelqu'un qui a étudié de manière très savante dans les années 50 toute la théorie autour de l'orgone. Bon, rapidement, l'orgone, c'est l'idée que nous avons une monnaie d'échange biologique qui est syntonisé avec le cosmos. Puis là, ça peut paraître un peu ésotérique, mais je vous encourage.
Je pense que ça vaut la peine de faire une petite intro à William Reich, juste
pour au moins voir...
Pour comprendre un peu vers quoi on s'en va quand on va parler du film qui lui est dédié, parce que c'est très relié à ses théories, justement.
Oui, exactement. C'est essentiellement, c'est ça. Il croyait à cette force-là, qui est, pour faire un parallèle extrêmement rapide, l'aura sexuelle, qui n'est pas du tout... un encouragement psychanalytique à tout le temps aller baiser. C'est vraiment l'idée que nous vibrons tous, nous avons tous une carapace auratique sexuelle autour de nous qui, dans un moment de purification, est de couleur bleue. En fait, si on est correctement syntonisé par rapport à notre sexualité, et là, je vous dis pas du tout, si quelqu'un est comme totalement vide puis qu'il éjacule 7 fois par jour, c'est pas du tout ça. C'est vraiment l'idée que si quelqu'un est syntonisé corps, cœur et esprit et qui ne participe pas à l'activité sexuelle dans un réflexe dans des réflexes d'humiliation ou de répression et de vanité, parce que c'est essentiellement ça les grands mots que William Reich dénonçait. En fait, il disait que quelqu'un qui vit mal sa sexualité, qui les vit dans des conditions torsionnées de notre société actuelle, pouvait aller jusqu'à développer des cancers. Cet homme-là était extrêmement à l'avance sur son temps par rapport à la libération sexuelle, mais aussi la libération émotive et restreignante de la société. D'où découlent ces objets, dont notamment la chambre à Orgone, qui est une pièce essentiellement grosse comme une cabine téléphonique, isolée de l'intérieur en métal et de l'extérieur en matière biologique, donc soit du bois ou du cuir, et on pouvait aller amplifier et capturer cette énergie-là. Et cette énergie-là, l'Orgone, était utilisable à la fois pour réénergiser l'individu, défaire les barrières de la structure mentale et aussi, dans des cas extrêmes, altérer la météo. Dans le cas du Cloudbuster, duquel on a, qu'on a abordé dans l'émission sur Il Profeta, le Cloudbuster qui a été repris par, je me rappelle pas, en fait, le vidéoclip d'une dame. Là, j'ai Tori Amos dans la tête parce que c'est pas mal comme Tori Amos, mais c'est pas elle. C'est
je, la m'en rappelle plus, mais
je vais la trouver. Je suis pas devant l'ordinateur aujourd'hui, je capote un peu.
C'était pas Laurie Anderson, non,
c'était
rien à
voir. Non, c'était pas Laurie Anderson, mais ça serait pas très plus... loin.
En tout cas.
C'en est une autre qui a fait un vidéoclip qui s'appelle Cloud Busting avec, si je me rappelle bien, Donald Sutherland. Mais bon, tout ça pour dire, c'est une grande parenthèse pour expliquer la philosophie qu'il y a derrière ce monsieur-là, Reich, qui, il faut quand même le mentionner, était un homme avec un énormément de crédibilité académique. Il a étudié, il a été en fait le premier assistant de Freud à Prague, mais il a aussi été extrêmement critiqué au point tel qu'il a été traîné en cours aux États-Unis et on a annexé et fait débûcher de ses 6 livres les plus importants. Donc c'est un homme qui est mort en prison, humilié, détruit et décrédibilisé. Ses œuvres.
Un homme qui vivait avec autant de liberté d'être soudainement emprisonné, ça l'a tué. Là.
Et on va jusqu'à dire que la civilisation occidentale, lors du procès de Reich, était à était à un croisement de chemin et qu'on pouvait aller vers le bénéfique, mais malheureusement, le politique. Le social et le public a fait en sorte qu'on a pris le mauvais chemin et que présentement, les maux du monde reposent sur le fait qu'on a décidé de décrédibiliser cet homme-là et que si seulement on avait décidé en tant que société, de lui accorder plus de respect et de suivre plus ses pensées, peut-être qu'on irait mieux maintenant. Mm-hmm. Ça, c'est très triste, mais c'est quelque chose que Dusan croit.
Oui, puis il poursuit un peu. En fait, c'est ça ce qu'il va faire dans ses films, puis particulièrement dans W.R. Mysteries of the Organism, c'est qu'il va un peu poursuivre les théories de William Reich en les appliquant avec son cinéma, finalement, avec les procédés cinématographiques, puis en faisant de l'association d'idées. Mais c'est sûr qu'en même temps, va s'amuser à faire des parallèles entre, justement, les répercussions possibles d'une répression sexuelle versus répression politique et ce que pourrait bénéficier comment pourrait bénéficier finalement le régime socialiste avec une libération sexuelle.
Parce que comme on disait, essentiellement lui, il n'était pas anticapitaliste ni anticommuniste fondamentalement, il était juste anti-autorité. L'idée que l'autorité planait même sur l'activité la plus élémentaire humaine, la sexualité, le dérangeait énormément du sens. C'est vraiment ça qui a fait en sorte qu'il a décidé d'appliquer tout ce qu'il a appris et dire, ben on est peut-être capable, si pas à travers l'académie et le politique, on est peut-être capable à travers l'art de déconditionner les gens par rapport à ça.
Donc,
ça fait des films bizarres.
Donc, est-ce que avant de se lancer complètement dans les deux films, je pense que tu voulais faire une petite pause.
Je vous garde qu'est-ce qu'on va faire. On va aller prendre une pause cigarette. Je vais prendre du smoke bien vite, puis on va aller parler de W.R., Mysteries of the Organism, puis Sweet Movie. OK, tout le monde? Donc, nous sommes de retour en onde sur Choc FM. On a décidé essentiellement de prendre cette forme-là aujourd'hui parce qu'on veut rendre hommage à un tout nouveau podcast qui est tout frais. C'est un bambin de podcast qui s'appelle La Cave, animé par deux bons amis à nous, Jake et Dom, qui font vraiment une job exceptionnelle. Puis bon, ça méritait essentiellement. Ils se sont allés prendre une cigarette puis on s'est dit que ça valait la peine d'aller parler.
C'est un petit clin d'œil pour ceux qui comme Jean-Michel, connaissent la carte. Parce que j'avoue que je l'ai découvert aujourd'hui, malheureusement, mais Jake et Doom, si vous nous écoutez, je m'en vais de ce pas ce soir écouter ça. Puis,
puis on va aller prendre notre smoke, juste pour le plaisir de la chose. Donc, on est revenu en onde sur choc.ca. Vous écoutez le 7e antiquaire et tout va mieux dans le meilleur des mondes, parce qu'aujourd'hui, on parle de Dusan Makhachev et...
Tout à fait.
Et de tout le monde qui gravite autour de lui et autour de la Cinémathèque québécoise, dit-on.
Toi, t'es dans tout le temps. Comment qu'on fait?
Je capote.
Donc...
WR, Mysteries of the Organism. Moi, j'ai découvert WR. Sweet Move avant. Toi, t'étais comme, dude, si on fait quelque chose sur Dusan, faut qu'on le fasse sur WR. J'étais comme, pourquoi qu'on le fasse sur WR? T'as dit, parce que c'est William Reich. J'ai fait, oh, shit, c'est ça. J'en reviens pas.
Comme je l'expliquais, j'avais aucune idée. À chaque fois, je voyais ce titre-là que c'était relié à William Reich, mais quand je l'ai vu, j'ai dit, oh là là, oh là là.
Non seulement qu'il est lié à lui, mais il est lié à une œuvre, en fait, fondamentale du canon de Reich. Vous êtes capable de le trouver, comme on disait dans la première partie de l'émission, il a été brûlé en masse dans une librairie, en fait, je l'ai ici, à New York City. En fait, ils ont tous brûlé à la même place.
Aussi, si je ne me trompe pas, à Portland. En tout cas, il y a eu trois endroits où il y a vraiment eu des masses de...
J'aimais Portland, puis là, ça vient...
Non, mais écoute, c'était une époque, je ne sais pas.
Donc, le livre « Mass Psychology of Fascism », dans lequel William Reich décide de décrire et d'expliquer la montée du fascisme en Europe par la répression sexuelle. Fait que c'est pas un petit livre de chevet, mais c'est super le fun à lire.
Et le film, essentiellement, démontre justement exactement tout ce qu'on vient de dire, mais avec l'association d'images. Parce que c'est vraiment ça, comment... je me répéterai pas, mais comment la répression sexuelle, etc. Mais comment, oui, ça peut mener aux montées, aux montées du fascisme.
Oui, parce que, essentiellement, c'est tout problème de répression va... avoir des conséquences et devra éclater d'une autre manière. Cette répression-là sexuelle qui planait, si on peut dire, en Europe à cette époque-là, et qui plane, ne soyons pas hypocrites, qui plane aussi en Occident présentement, mène à des grandes frustrations, et ces frustrations-là sont souvent indicateurs d'une volonté de contrôle. Et qui dit volonté de contrôle dit inévitablement fascisme.
Dès le début, en fait, parce que le film est sectionné en plusieurs extraits. On commence avec un extrait un peu kaléidoscopique avec des gens qui baissent sur la pelouse, sur l'herbe et tout. C'est tout beau, c'est tout libre. Et pendant ce temps-là, on a un discours. Et là, je vous lis les sous-titres qui est en anglais. Le discours raconte essentiellement comme « Body privated of life energy, deteriorate to cancer. Cancer is closely related to fascism. Fascism is the frenzy of sexual cripples. The swastika owes its magnetism to being a symbol of two bodies locked in genital embrace. Comrades, make love joyously. »
Oui, donc, c'est pas mal surprenant, j'avais jamais
donc
fait...
Donc on se lance un peu là-dessus. Puis c'est ça, le film se transforme ensuite soudainement en une espèce de documentaire qui est un peu comme un pèlerinage sur les traces de William Reich, où Dusan retourne sur les lieux...
dans le Maine, à Wrangley.
Oui, où il aurait vécu ses derniers moments. Donc, il va avoir des espèces de commentaires par son barbier, par l'épicier du coin qui l'a connu, mais aussi, par des collègues psychologues qui ont suivi...
Et ses enfants psychologues aussi.
Et ses enfants, son fils et sa fille. Donc, chacun va amener un peu son apport sur comment était William Reich, qui était William Reich, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Puis le film se transforme ensuite à un moment donné où on tombe dans de la fiction qui va toujours être en parallèle avec des images d'archives, comme on le disait, et d'autres moments qui reviennent un peu à ces moments de William Reich-là. Et le film de fiction va suivre une personne qui s'appelle Milena, si je ne me trompe pas.
Oui, exactement.
Ça se passe à Belgrade, en Yougoslavie. Et elle va vraiment essayer de faire embarquer un peu tout le monde. Elle a vraiment un discours de socialisme, de libération. Et essentiellement, elle a le discours, en fait, du réalisateur, mais aussi de William Reich à travers ce qu'elle va essayer de raconter pour embarquer un peu tout le monde avec elle. Et d'un espèce de discours à travers sa cour arrière va réussir à embarquer un peu tout le monde dans une espèce de chaîne humaine qui, par la magie du montage, nous amène dans une méga masse humaine à Pékin, en Chine, qui est communiste. Puis ensuite, par un autre détour du montage, on se ramasse ensuite avec Staline. En fait, pas Staline réellement, mais un film sur Staline dans lequel un acteur joue Staline. Et donc, c'est un peu toujours de cette manière-là que le film va évoluer. et toujours en essayant de se réapproprier un peu les messages de Reich. Le film va avoir beaucoup fait un impact à Cannes. En fait, en festival, le film à l'extérieur de la Yougoslavie va avoir beaucoup disons, marché en festival, très bien critiqué, va avoir eu des prix d'ailleurs à Cannes, des prix dans d'autres festivals, bon, Chicago, etc. Mais en Yougoslavie, va avoir tout de suite été banni. Quand on dit banni, c'est pas officiellement banni, mais le gouvernement a repris les copies en disant non, ça, c'est, ça ne se fait pas diffuser. Et ce, pendant 16 ans ça a duré. Ça a même amené Dusan à faire face à une possibilité d'emprisonnement qui était de 3 mois à 3 ans de prison pour, en fait, pour ridiculiser l'autorité ou blasphème vers, face à l'autorité, etc. L'équivalent de pisser sur un drapeau, mettons.
Youhou!
Mais il s'en sera sorti à cause de la réputation de son film à l'extérieur du pays, parce que là, il commençait à avoir vraiment beaucoup de, bon, une bonne réception, les critiques marchaient bien, il gagnait des prix beaucoup en festival, donc plus de, d'autres festivals de d'autres pays voulaient son film, donc eux, ils sentaient un peu comme embarrassé par ça, parce qu'ils disaient, bon, là, on veut interdire un film que tout le monde semble vouloir voir, donc c'est un peu... Donc, en bout de ligne, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont dissocié du membre communiste.
OK, il a été excommunié de l'Église communiste. Oui,
absolument, donc c'était le mieux qu'on peut faire. Ce qui fait qu'il a dû, disons, provisoirement s'exiler et à Paris pendant un temps, d'où ça lui a permis de faire le film Sweet Movie. Et ultimement, en fait, pendant un autre temps aux États-Unis, où il a essayé pendant longtemps de faire des films dans les studios hollywoodiens, mais tous les projets ont été essentiellement plus ou moins avortés. Et je pense que c'est un peu, comme on disait, à partir de Coca-Cola Kid, là, qui a pu se faire des coproductions australiennes pour un temps, jusqu'à ce qu'il retourne... en Yougoslavie, pour faire, je pense, soit un court-métrage ou un moyen-métrage en 94, 12, je ne sais plus, au moment où la Yougoslavie, il y a eu la cession justement de tous les États et que c'est devenu finalement la Serbie. C'est plus la Serbie tout seul, c'est juste la... Ah, c'est tellement compliqué,
c'est ça,
la Yougoslavie.
Non, c'est
un pays qui, en 100 ans, qui s'est tellement transformé, qui a ramassé d'autres endroits. Même le Kosovo est officiellement pas encore, je crois, indépendant, mais qui l'est. Donc, c'est pas évident.
Oui, exactement. Il y a comme des gros problèmes d'identité, ce qui fait en sorte que, et ça va servir plus tard, on peut considérer Dusan comme un... Ben, en fait, c'est... On peut considérer. Il est nationalisé comme un Serbe. Et ça va être très important pour les choses qui restent à venir. Il y a une des affaires qui est très... Ben, en fait, encore pour être totalement explicite par rapport à l'émission, moi, je suis énormément les opinions de Feu Amos Vogel, qui était, si je me souviens bien, le curateur de la Cinémathèque de New York, ou du moins, il y a eu une cinémathèque alternative, peut-être, à New York, qui l'a occupé et qui a programmé énormément pour. Mais dans son film « As a Subversive Art », son essai de 1973, il considérait W.R., The Mysteries of the Organism, comme inquestionnablement, mais là je vais le dire en anglais parce que sinon ça va être plein de calques tout croche, unquestionably one of the most important subversive masterpieces of the 70s. Et bon, pour les gens qui écoutent l'émission depuis très longtemps, vous savez qu'on en a couvert du cinéma subversif des années 70. Et là, pour un homme de la trempe de Amos Vogel de dire ça, un chum personnel de John Lennon, dire CWR qui est comme le film subversif par excellence, c'est gros. C'est très, très gros.
C'est le livre avec la pochette où on voit une tête coupée en bonhomme. Là.
Ouais,
exactement. Je viens d'allumer.
Film as a Subversive Art, c'est un livre très bon immense. Il faut maintenant, parce qu'on est en train de parler des films, noter que l'opinion générale sur les films de Dusan ne sont pas totalement favorables. En fait, l'opinion... Bon, on l'a dit en début d'émission, les Critérions, la gang de Critérions ont honoré ces deux plus importants longs-métrages et une multiplicité de ces courts-métrages.
Mais le film, au niveau des critiques, est bien reçu, là, quand même.
Mais le public, c'est épouvantable. Et je ne ferai pas plus que ce que je vais faire présentement. Je veux juste vous dire que ça vaut vraiment la peine d'aller lire les commentaires d'utilisateurs sur le film, que ce soit sur Internet Movie Database, que ce soit sur Amazon, que ce soit sur n'importe quel site, The Guy with the Glasses, allez regarder les commentaires d'utilisateurs sur ce film-là, Rotten Tomatoes, c'est hilarant. Mais hilarant de clarté. C'est ce qu'il y a d'immense. Il y a des gens qui réussissent à dire Bon, essentiellement, qu'est-ce que Dusan a réussi à faire? C'est les 120 jours de Sodome et Holy Mountain ensemble. Et ça, c'est supposé être un commentaire dépréciatif, mais c'est tellement vrai que ça en devient extraordinaire. Il y a même un gars qui aborde le second film. Je pense qu'on est rendu à être capable de parler de Sweet Movie. Qu'est-ce que t'en penses? T'as encore une couple de trucs à dire sur W1?
Ouais, on a, oui, non, ben en fait, je pense qu'on ouais, on en a assez parlé.
Non, mais l'affaire avec W1, c'est que c'est quand même important pour clarifier cette transition-là. C'est que Low W.R., Mysteries of the Organism, est un film, est un projet initialement un documentaire, comme tu me disais au début de l'émission, que Dusan avait eu le financement pour véritablement faire un documentaire straight pipe sur Reich, et qui ensuite a été contaminé par la fiction et les opinions personnelles du réalisateur.
Oui.
C'est tout de même un film qui est, je veux pas dire un exercice théorique, mais c'est comme si il avait étudié pour son examen avec W.R., il avait intégré tous les pensées, les croyances. Et
son essai est devenu un film.
C'est ça, puis il a fait, bon, hey, regarde, je vais l'appliquer, puis je vais essayer de faire un film reichien avec Sweet Movie en 1974.
Comme on disait, ça l'a amené à se faire excommunier du socialisme, si on veut. Puis donc, à s'exiler à Paris. Puis à partir de là, il a pu faire un autre film en 1974, Sweet Movie, qui est une coproduction québécoise, qui est en partie tournée à Montréal, pour ceux qui l'ont vu. Il y a un moment donné, ben là, je vais le lancer dans les airs, il y a un moment donné où on voit une grosse bouteille de lait, tu sais, à vie pendant un temps, dans une grosse bouteille de lait, puis on voit le plan de loin avec la bouteille. Tout ça, c'est à Montréal.
Ah.
À cette époque-là, il y avait cette bouteille de lait-là sur le top. Puis quand tu regardes au loin, tu vois à Montréal. Tu vois environ, c'est où?
Aïe, OK. Ouais, j'avais pas du tout fait. Ouais. Ben, en fait
Parce que c'est avec Carole Laure, comme on le disait tout à l'heure.
Dame Laure. Bonjour.
Et, bon, le film, suite au succès de WR, succès critique et festivalier, a été présenté à la quinzaine des réalisateurs à Cannes. Encore une fois, ça a partagé beaucoup le monde. Et cette fois-ci, ce qui était drôle, c'est qu'à un moment donné, après la présentation, en fait, il y a eu deux cinéastes français. Bon, on est en 74. Il y a eu deux cinéastes français communistes du Parti communiste qui s'en sont pris quand même violemment à lui pour avoir, à l'aide de collages, de montages d'archives, de fiction, etc., impliqué l'armée soviétique dans les massacres de Katyn en Pologne. Mais ce qui est drôle, c'est que finalement, l'histoire aura finalement donné raison à Dusan avec le temps. Mais c'est ça. Donc, c'est un film qui a choqué à l'époque. Bon, il va reprendre un peu ses idées idées de réappropriation de l'idéologie socialiste communiste pour versus le capitaliste. Donc on va suivre en parallèle une personne qui est sur son bateau dont je crois que c'est Milena encore en fait. Je me demande si je me trompe. Non, c'est peut-être pas ça.
Mais l'actrice est Anna Prucnal.
Oui. Donc, qui représente le socialiste, le communiste. D'ailleurs, son bateau, si je ne me trompe pas, sur le...
Oui, il y a la grosse face de Karl Marx sur la proue.
Puis,
son bateau qui s'appelle Survival.
Puis elle va attraper l'acteur Pierre Clémenti dans son...
Qui ce dude-là?
C'est quelqu'un qui était beaucoup dans les films, justement, peut-être avant-gardiste d'une époque en France. D'ailleurs, il a joué dans... il reliait des films très peu connus, mais vraiment très intéressants de...
Je me suis dit que tu le connaîtrais.
C'est niaiseux parce que j'ai un blanc, là, mais il y a quelqu'un qui a fait des films qui étaient bons en France et au Québec. Pourquoi c'est... Étienne O'Leary. Expérimental, en tout cas, plus ou moins. Là, c'était une petite parenthèse.
Mais c'est une très belle parenthèse. J'admire énormément comment t'es capable de faire ça.
Donc, on va suivre ça en parallèle, ces gens-là, pendant que la personnage de Carola, qui est l'opposé féminin, qui, elle, donc autant que la personne socialiste, est une femme forte qui est en contrôle de l'homme qu'elle va aborder dans son bateau, autant que de l'autre côté, on va suivre Carola dans ses aventures qui l'amènent d'homme en homme, mais pour lesquelles elle est complètement soumise à chaque fois à ces hommes-là. Et elle est même juste, une possession comme étant Miss Monde... La femme que...
Je veux le faire, parce que quand j'ai commencé ce film-là, j'étais comme « Wouah! » Comme j'ai expliqué tantôt. Mais c'est bien que tu décris les parallèles féminins, parce que si tu prends W.R., Mysteries of the Organism, t'as deux femmes encore. Une femme qui parle tout le temps de sexe puis qui baise pas. Et une autre femme qui parle très peu puis qui baise tout le temps.
Oui.
Fait que là, t'as de l'ombre dans Sweet Movie. Une femme qui va faire le parcours initiatique, si on peut le dire, vers le capitalisme. Et l'autre qui fait le parcours initiatique vers le communisme. Mais bon, les deux sont quand même bien intégrés là, au début. Mais tout au long du film, on se retrouve encore avec quelque chose que j'aime beaucoup décrire. Bon, l'idée du carnavalesque de Bakhtin, cette idée qu'on est capable de transformer et de renverser les rôles à travers un art qui serait déchaîné et chaotique. Puis on peut purger la société de la subjectivité et les cas de décence et de décorum avec cette idée de carnavalesque-là. En quoi est-ce que les rois deviennent fous et les fous deviennent les rois pendant une soirée seulement? C'est essentiellement ça qu'on a dans Sweet Movie. Tout ça pour dire, on commence avec une scène d'introduction qui m'a rendu totalement patois dans mon salon. Je m'assois, je me dis, oh, on va essayer ça, on va écouter Sweet Movie et tout. Et ça commence sur un show de télé-réalité, essentiellement, qui tente de trouver la vierge la plus parfaite pour marier le plus important milliardaire de la société occidentale, le monsieur Capital, duquel on parlait tantôt. Tout ça surveillé par sa mère, qui est extrêmement creepy. Fait que t'as une espèce de 15 minutes où c'est un show c'est un gala Miss Monde, où les femmes descendent, s'assoient sur une chaise de gynécologue.
Chacun représente son pays.
Oui, oui, parce que t'as Madame Sud-Afrique
oui,
et
tout le monde.
T'as Madame Yougoslavie qui body slam le docteur.
Oui, oui, oui.
Parce que le docteur est là pour inspecter les hymens.
Oui.
Et il y en a une, je me rappelle plus c'est quel pays, qui représente probablement le Liban, mais bon, non, on pense pas. Qui, même la lumière du docteur, la chatouille, elle est à ce point-là sensible.
Oui, oui.
Mais l'hymen de Carole Laure fait de la lumière.
Oui, Miss Canada qui débarque avec son manteau de fourrure blanc.
Et mademoiselle, je vous demanderai s'il vous plaît d'enlever vos culottes, mais j'en porte jamais de culottes. C'est une scène d'ouverture qui est, pour les bonnes et mauvaises raisons, inoubliable. C'est hallucinant. Et là, s'en suit le début de ce proto-Candide de Voltaire où la dame doit marier ce monsieur Capital-là à la Vierge dorée. Percer son hymen et vivre une pluralité d'expériences sexuelles, tous plus diversifiés les unes que les autres. C'est un film extrêmement envoûtant, encourageant, emballant. T'as le goût de suivre ça jusqu'à temps que la madame communiste se pousse son vagin dans la face d'un petit garçon de 8 ans. Moi, à ce moment-là, j'ai fait « Wouah! » Oui, et c'est pas n'importe quoi parce que cette femme-là, Anna Prucknall, qui tout donné. Ça n'a pas d'allure. Comment que tu peux pas dépasser ces limites-là?
Oui, oui.
Je pense qu'il y a, le tabou le plus ultime en cinéma, ça serait l'inceste.
Ouais. Mais pour ceux qui l'ont pas vu, c'est pas nécessairement pornographique dans la façon que c'est montré. C'est très stylisé et à arty, si on veut.
Oui, mais tout auditeur informé. Mais,
quand même, c'est touché, disons. C'est quelque chose qu'on verrait pas aussi facilement, mais disons, maintenant.
C'est quelque chose qu'on verrait pas du tout.
Non, c'est ça. C'est ça qui arrive aussi. Moi, c'est un truc, petite parenthèse, là, qui m'a quand même frappé en voyant les films de Dusan. C'est qu'il y a autant qu'il y a des scènes comme ça qu'on pourrait plus voir maintenant, autant qu'il y avait une certaine liberté, on dirait, à ce moment-là. Autant dans WR où on voit un personnage qui se promène, c'est clairement pas stagé, il se promène puis ils ont filmé sur le coup. Il se promène avec une espèce d'habit orange, oui, avec une mitraillette, un genre de AK-47 où il se promène dans les rues de New York. Et tout le monde le regarde en rigolant, sans que ça pose vraiment un problème, sans que ça ait de l'air de... Tu sais, il n'y a pas 3-4 flics qui débarquent tout d'un coup pour le pitch à terre. Donc, c'est quelque chose qu'on serait plus capable de faire aujourd'hui.
Je suis pas mal d'accord avec toi, parce qu'un film comme ça, ça ne se fait plus, ça s'écoute à peine. Comme
mais tu vois, autant que cette scène-là dont tu parles, dans certaines critiques qui sont sorties à l'époque, je voyais des gens la décrire comme étant une belle scène de poésie, puis autant que ça a pu... mais tu sais, c'est ça, c'est que j'ai l'impression que c'était une autre époque.
Ah, totalement!
Et la réception de ce genre de scène-là pouvait, j'imagine, choquer là, quand même.
Ben là.
Mais d'une autre manière, il y avait d'autres films, c'était pas le seul film à se lancer vers ça. T'sais, on est post la révolution sexuelle et tout, et les hippies. Donc, on est dans un temps où ce genre de scène-là ou ce genre de film-là pouvait quand même apparaître occasionnellement. Mais bon, oui,
ouais,
il a été loin avec ce film-là.
Mais c'est ça,
il
c'est quand même surprenant pour un auditeur.
Oui, oh, oui. Moi-même, j'ai fait « Oh, OK, il s'est rendu là. »
C'est ça, c'est ça. Puis même qu'à un point tel que ces films-là, bon, je parlais tantôt des commentaires négatifs, tous les gens de l'Internet qui détestent littéralement ce film-là, il y a quand même un gars qui a mis le doigt sur comme l'affaire la description la plus parfaite. En fait, qu'est-ce qu'il a dit? C'est lui, Sweet Movie, de 1974. C'est une version communiste de Pink Flamingos de John Waters. Puis ça, j'étais comme, wow, t'as... Tout en détestant, t'as totalement compris c'est quoi le film. On parlait tantôt de... En fait, je sais pas, je l'ai abordé dans l'émission, je décris beaucoup le film comme ça. C'est Les 120 jours de Sodome et Holy Mountain mis ensemble. Puis c'est pas pour rien que, pour la version italienne, c'est Pasolini qui a fait le doublage.
Ah!
Et... Dacia Mariani, que je connais pas.
Okay.
Mais c'est eux autres qui ont fait non, ce film-là. Et un chef-d'œuvre de subversion. C'est gros. C'est très gros. Moi, mm-hmm. j'ai été choqué.
Parce que ça, dans son parcours du personnage de. Bon, les deux en parallèle vont se rendre quand même ultimement des choses assez dramatiques. C'est juste que le personnage féminin socialiste, comme je disais tout à l'heure, est toujours en possession de ses moyens, toujours celle qui est forte, celle qui va finalement, bon, ultimement tuer l'homme. Oui. Et le personnage de Carolore est celle qui se laisse posséder constamment par les hommes autour d'elle. Et ultimement, va se ramasser dans la commune de... Bon, c'était une commune, en fait, qui a été fondée en 72, donc 2 ans avant le tournage du film, par Otto Muhl et la commune de Friedrichshof. Enfin, ces gens-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils se lançaient dans des espèces de thérapies qui étaient presque de la performance, en fait, de régression, pour finalement essayer justement un peu, parallèlement, disons, à ce que William Reich voulait faire, d'essayer de briser un peu tout ce mécanisme-là de barrières qu'on a, de personnalité, de moule, etc., de masque. Donc, en faisant de la régression jusqu'à l'âge infantile, jusqu'à, limite, jusqu'à être un bébé, en fait. Donc, de
recommencer, faire une
thérapie performative, de faire un reboot pour que ta persona recommence à zéro, en fait. Donc, ils se sont un peu lancés, à un moment donné, dans une... performance thérapeutique de la sorte, où tout le monde un peu régressait, bon, ça bave, ça joue avec la bouffe, ça joue avec son caca tôt ou tard, et Dusan, de ce que j'ai pu comprendre dans un entretien avec lui, aurait un peu garoché Carole Laure là-dedans, en lui disant « Ok, participe à la thérapie, puis on va filmer ça va faire partie du cheminement du film, etc. » Mais il y a des... C'est ça, sa réaction, ça a été au début d'être dans un état un peu fœtal. Donc, elle est partie vraiment à zéro. Et là, tranquillement, tu as une scène où elle va se mettre à téter le sein d'une des personnes qui est juste à côté d'elle. Donc, tranquillement, le bébé, ça va régresser, ça va...
progresser d'une
certaine manière jusqu'à ce que là, à partir de là, on suit tout le monde où ça devient quasiment un genre de food fight. Puis tôt ou tard, bon, il y a du caca qui se mêle à ça.
Et du vomi.
Il y a du vomi, mm-hmm. Il y a du sexe qui se mêle à ça. Et il y a une Carole Laure enduit de chocolat de haut en bas, complètement nue, qui se met à se déhancher. Donc, c'est vraiment des scènes assez troublantes. Et d'ailleurs, totalement. Quand on voit ça, on se questionne. Justement, mon Dieu, en tant qu'actrice, comment on fait pour se rendre là et tout? Bon, on a pu comprendre que ça n'a pas dû être évident. D'ailleurs, Carole Laure n'était pas du tout contente de l'expérience et des scènes que ça aurait pu donner. Elle a d'ailleurs poursuivi, j'ai vu ça aussi dans le même article, elle a poursuivi Dusan à l'époque pour pas que le film se rende à Cannes. Mais bon, il y a eu une espèce d'entente, je crois, à l'amiable, où Dusan a finalement recoupé dans le montage et s'est servi de, je crois, d'une autre actrice pour faire quelques gros plans. Explicite. Oui. Donc,
il y a énormément qui a été tourné autour du film qui a été coupé et qui restera là. Il n'y a aucune nécessité d'aller dans ces zones-là. Mais, comme on disait à la moitié de l'émission...
Mais l'idée, c'est que c'est une performance live qu'on voit. On s'en rend peut-être pas tout le temps compte pendant le film, mais c'est vraiment... Il est rentré dans la commune et la performance est là. Il a finalement juste filmé.
C'est ça. Il a pris la théorie qu'il avait développée, la théorie filmique d'adaptation de la philosophie reichienne, et il a décidé... de la mettre en pratique avec Sweet Movie et de faire un film dans ces conditions et dans ces balises psychoanalytiques-là très précises. Ce qui fait qu'il y a énormément de vérité, il y a énormément de vulnérabilité dans ces scènes-là, je pense que ça transparaît comme un film.
Oui, ben c'est un peu une espèce de manifestation primale de vie là, puis de joie. En fait, c'est ce qui transperce du film. Ce que ça a pu être, en fait, comme tournage, si j'imagine une autre chose. Mais c'est un peu vers ça, oui, que c'est en allé.
C'est ça. Puis c'est là où Roger Ebert...
Ça peut faire penser, d'ailleurs, à la scène des Idiots de Lars von Trier, où t'as bon, quelque chose de très proche, où ils font une espèce de... Justement, je crois, là, je me rappelle plus, ça fait trop longtemps que je l'ai vu, mais de thérapie où tout le monde se met à régresser. Puis à...
Ben, c'est ça, les Idiots, ouais, essentiellement, au complet, c'est des gens qui décident de se...
Ça fait longtemps que je l'ai vu au cinéma.
Non, mais c'est bien pensé. Oui. Puis c'est ça, c'est tout ce courant-là de l'actionnisme viennois. Mais... c'est ça, Roger Ebert, que je trouve qu'il y a des moments de clarté immenses par rapport à beaucoup de films qui sont dépressifs, où il dit que Sweet Movie est un film qui défie et qui évite toute forme de critique. Tu ne peux pas critiquer un film comme ça, mais en même temps, on dirait que c'est ce qu'il veut de toi. Tu ne peux pas formuler une opinion, mais tu vas toujours y penser et tu... ne sera jamais capable, ou du moins, le film ne t'encourage pas à formuler une pensée. C'est quelque chose qui est vécu. Puis ça aussi, ça vient dans la forme et dans le fond.
Oui.
Ça, c'est là que
je pense que Dussan lui-même disait à un moment donné que c'est aux personnes qu'il regarde d'en sortir un sens, parce que lui-même, par moment, je crois, pendant le tournage, il sait vers où il s'en va, mais il y a beaucoup de choses qui sont faites de façon très impulsive.
Ouais, là, ouais.
Sans qu'il sache, sur le moment, trop ce qu'il est en train de faire.
Pis c'est ce qui fait cette espèce d'étrangeté. Bon, on parlait de W.R. comme un mélange documentaire, fiction, chevauchement. Puis là, t'as Sweet Movie qui est ce moment d'incertitude appliquée. C'est une expérience qui est totalement unique au cinéma. Moi,
c'est comme une longue initiation, un peu de la manière que les films de Jodorowsky,
mais alimenté dans une... Ben, en fait, Jodorowsky aussi avait ses moments de scatophilie, puis il voulait que George Harrison fasse quelque chose dans un pot cristal.
Oui, il y a des choses qui peuvent... Il y a des parallèles à faire.
Parlant de réalisateurs influents qui ont été extrêmement touchés par le film, tu avais une anecdote par rapport à M. Coppola.
Oui, c'est vrai. En fait, après avoir vu W.R. à Cannes, M. Coppola est allé, Francis Ford Coppola, bien sûr, est allé voir Dussan pour lui offrir de réaliser Apocalypse Now, qui était à ce moment-là un scénario qu'il n'était pas sûr du tout de réaliser. Et Dussan aura refusé l'offre en lui disant, bon, d'une manière un peu naïve à l'époque, comme il disait qu'il était un peu naïf et qu'il avait répondu à Coppola que pour lui, un film comme ça, malheureusement, sur la guerre, un film de guerre américain ne peut être réalisé que par un Américain. Donc, c'est un peu à cause de... grâce à Dussan, si on veut, ou à son refus, que Coppola a réalisé Apocalypse Now.
C'est quand même... Je l'aime, cette idée-là, qu'un film sur la guerre du Vietnam peut juste être vu à travers les yeux.
Pour un réalisateur politique là, comme Dussan, pour lui, ça faisait pas de sens que lui touche à quelque chose comme ça.
C'est pas pire. Et parlant de pas faire de sens, David, je te remercie énormément pour une émission, mais on va aller écouter The Fugs et Kill for Peace. Second fiddle.